Sortir avec Maxime Despomerleaux.
Bonjour, ici Maxime Despomerleaux pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Avec mes invités aujourd'hui à l'émission, on parle théâtre, littérature et télévision. Je reçois Richard Gaulin pour nous parler de la dernière production du théâtre aphasique. On va du côté de Québec à la Maison de la littérature et on termine avec une idée de sortie tout en restant chez soi. Restez avec nous! L'aphasie est un trouble du langage acquis suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC, ou un traumatisme crânien cérébral. Le théâtre aphasique est un organisme qui œuvre auprès des personnes aphasiques par le biais de l'art dramatique et du théâtre depuis 20 ans cette année. Et j'accueille en studio M. Richard Gaulin, conseiller développement artistique et metteur en scène pour le théâtre aphasique. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Plaisir.
On vous accueille pour parler d'un spectacle qui a lieu ce soir à Rimouski, intitulé « Le dernier mot ». Mm-hmm. Parlez-nous de ce spectacle.
Alors, « Le dernier mot », c'est un spectacle qui a commencé à rouler déjà depuis un petit bout de temps, mais qui fait un petit tour en région grâce au fonds du Dr Paul David. Donc, ce qui permet aux différentes associations de personnes aphasiques en région de pouvoir accéder à au spectacle qui est fait par le Théâtre aphasique à Montréal. Donc, le dernier mot, c'est une belle opportunité pour les gens de là-bas d'être sensibilisés à l'aphasie par un spectacle, ce qui est la spécialité du Théâtre aphasique depuis 20 ans, comme vous l'avez dit.
Mm-hmm. Donc, c'est vraiment du théâtre,
oui.
c'est de l'art dramatique.
Absolument.
Ce sont le Théâtre aphasique, c'est 24 comédiens, je crois, qui font partie de la troupe.
Oui. Oui, donc 24 comédiens, mais bon, pour les biens de la production qui va être présentée ce soir à Sherbrooke, pas Sherbrooke, excusez-moi, à Rimouski, ce sera deux projets qui vont être présentés, soit donc 8 comédiens qui vont être sur scène pour Rimouski ce soir.
Le dernier mot, oui. Pour décortiquer un peu mieux le projet, mm-hmm. C'est un recueil, si on veut, de textes. Oui. Ce sont des scénettes. Vous avez invité différents auteurs québécois. C'était une première pour vous d'amener
Absolument.
Une commande à des auteurs québécois à écrire sous ce thème-là.
Oui. Donc, Isabelle Côté, la directrice générale et artistique du Théâtre aphasique, a eu comme idée, une nouvelle idée, parce que, bon, au fil des années, on doit un peu amener différents défis à nos acteurs aphasiques. Donc, son idée, ça a été de proposer à des auteurs québécois d'écrire pour le théâtre aphasique. Donc, elle a lancé cette idée-là à plusieurs auteurs et certains donc, qu'on connaissait déjà et d'autres qui sont issus de l'École nationale de théâtre qui pratiquent en tant qu'auteur depuis quelques années. Et donc, suite à son défi pour les auteurs, ben certains ont relevé justement ce défi et ont écrit à partir du thème le dernier mot leur vision de ce que pouvait être le dernier mot pour eux. Donc on a droit à 6 univers totalement différents selon l'auteur qui a écrit.
Et ce soir, qu'est-ce qu'on pourra voir sur la scène à Rimouski?
Donc, ce soir, ce sera un texte de François Archambault qui s'intitule « Dernier mot d'un père mourant à ses trois filles chéries » et aussi de Chantal Cadieux, « La dernière danse ». Donc, ces deux auteurs-là, ce sera leur vision du dernier mot pour eux.
En tant que metteur en scène, Richard Gaulin, comment vous choisissez les acteurs qui vont jouer dans chaque scénette?
Au fil des années, au départ, Théâtre aphasique, il y avait peut-être une dizaine de personnes qui en faisaient partie. Au fil du temps, plusieurs se sont greffés parce que nous, on offre des ateliers conjointement aux productions théâtrales, ce qui fait que on voit des gens qui, suite à leur réadaptation, viennent faire des ateliers. Et par la suite, certains qui ont du temps, qui ont envie d'investir un peu plus, ils se joignent à la troupe. Maintenant, de façon totalement libre, pour les 24 comédiens, ça a été à travers les lectures qu'on a faites de tous les textes, d'y aller selon ce que eux ou leur intérêt se trouvait. Donc, certains textes étaient plus populaires que d'autres parce que, selon le type d'écriture de l'auteur, ça allait chercher plus la sensibilité de certains. Mais on y allait selon l'intérêt de chacun. On procédait pas par audition. C'était vraiment, on était à l'écoute de nos membres, de nos acteurs, puis on voit assez bien quelles sont les forces, où est le potentiel selon les différents défis des textes.
Justement, et vous êtes aussi à l'écoute de vos interprètes, donc de connaître, oui, leurs forces, mais aussi leurs défis, ce qu'ils ont envie de se mettre aussi comme défi sur scène.
Parce que pour certains, il y a certaines personnes dont la possibilité de parler est quelque chose de très complexe, et pour d'autres, moins. Certains gens dans la troupe qui ont eu l'occasion de jouer précédemment avaient un rôle non parlant, ce qui n'empêche absolument pas d'être performant, mais c'est simplement qu'au niveau du défi, c'était d'être sur scène, de mémoriser ses déplacements et d'être constant dans ce qu'on a à faire. Donc là, le nouveau défi pour certains, ce sera d'avoir un peu de texte à défendre. Et aussi, ils sont moins nombreux parce qu'auparavant, on travaillait sur des plateaux où est-ce qu'on avait peut-être quoi, 8 comédiens en même temps sur scène. Là, le groupe est réduit parce que à travers les différents barèmes, si on veut, de demandes aux auteurs, il y avait ça qui était un texte qui impliquait moins d'acteurs sur scène et la durée de chaque scène, chaque tableau, si on veut, est moins longue.
Et combien de temps de travail ça peut représenter, monter un spectacle, justement, comme Le Dernier Mot?
C'est au minimum, en salle de répétition, en lecture et tout ça, c'est un an de travail comme il faut. Et quand on dit un an de travail, c'est à toutes les semaines, à raison de 2 heures semaine. Et il faut que les comédiens, les gens qui font partie de la troupe, se disciplinent à regarder leur texte, à reviser toujours, parce que c'est pas parce que tu commences à maîtriser ton texte que tu peux te permettre d'arrêter de le regarder, et ça prend pas grand-chose pour que ça se perde. Donc, la nécessité de venir en salle de répétition est pas là pour rien, puis ils apprécient d'ailleurs tous le fait, justement, de se réunir et de partager pendant les 2 heures de répète le temps qu'ils ont ensemble.
C'est une belle expérience. Au début du mois de mars, le Théâtre aphasique a présenté 2 extraits du spectacle à des élèves de la commission scolaire de Montréal, en compagnie de l'auteur François Archambault. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là avec les élèves?
Ce qui était quand même assez fascinant, c'est que ces jeunes-là, qui ont d'école secondaire, qui ont toute une concentration théâtre ou vocation internationale, ces jeunes-là ont été préparés à la venue du théâtre aphasique, entre autres parce que c'est un projet qui visait le handicap et les arts. Et donc, ils ont exploré, avant même que nous, on y vienne, ils ont exploré différentes facettes de ce que c'est que quelqu'un qui vit avec un handicap, le phénomène d'exclusion et tout ça. Donc, ils ont beaucoup apprécié, puis ils ont été un public très attentif. Et la directrice de ce projet-là, de la commission scolaire, de la CSDM, était très épatée par l'écoute et aussi du fait que les jeunes questionnaient les acteurs après la représentation, parce qu'il y avait une période d'échange. Et il y avait une belle ouverture des jeunes. C'était fascinant. Puis les gens de la troupe appréciaient justement d'être en contact avec des jeunes, parce que souvent, lorsqu'on va jouer, on va faire affaire avec des associations, ce qui est très bien. Mais lorsqu'on peut justement aller hors des sentiers battus, c'est-à-dire aller dans des festivals de théâtre amateur, dans des visiter des gens qui ne connaissent pas du tout l'aphasie, puis des adolescents, c'est très loin d'eux. Quelqu'un qui vit avec un handicap, pour eux, ça fait pas partie nécessairement de leur quotidien. Donc là, ils étaient en terrain inconnu et ils ont été... C'était très nourrissant de travailler avec des jeunes, de présenter aux jeunes.
C'est important, justement, d'aller rencontrer ces différents publics.
Absolument, absolument. Le théâtre aphasique, juste à la base, c'est un théâtre de sensibilisation. Par contre, c'est pas un théâtre qui se veut... misérable, c'est-à-dire qu'on entoure vraiment les gens du théâtre de professionnels. La personne qui a fait la conception de costumes, les décors, la conception sonore, donc tous les gens qui accompagnent les comédiens de la troupe, ce sont des gens qui travaillent dans le milieu, du metteur en scène aussi. Donc, on est tous là, on les entoure parce que nous, en tant que personne qui chapeaute tout ça, autant Isabelle que moi, on a une formation en jeu. Donc, on n'est pas issu du milieu de la santé. Donc, on n'est pas orthophoniste. Mm-hmm. Donc, nous, on est issu du milieu théâtral. Donc, notre expertise se situe là. Et on a le même champ d'intérêt que les gens qui se ramassent au théâtre aphasique. Donc, le théâtre comme point commun, par partir de ça, bien, la création peut avoir lieu.
En terminant, Richard Golin, oui. Le dernier mot sera aussi présenté à Montréal.
Oui, ça va être présenté en mai, le 19 mai, au Petit Medley et également à la Grande Bibliothèque en juin, le 2 juin. Donc, c'est deux vendredis, si je ne me trompe pas. Donc, ça, ce sera une occasion pour le public montréalais de voir le théâtre aphasique.
Et en terminant, on va prendre quelques secondes. Parlez-nous de l'activité La course, les paroles dans le vent.
Ah, donc, Les paroles dans le vent, c'est un organisme chapeauté par le théâtre aphasique qui organise sa deuxième année une course qui aura lieu à la fin mai, le 27 mai. Et si vous allez sur la page Facebook de Paroles dans le vent, vous pouvez vous y inscrire. Paroles dans le vent, ce sont, ils font de l'art, des arts visuels ainsi que de la danse. C'est avec des personnes aphasiques, encore une fois, et c'est dans le but d'amasser des fonds pour que cet organisme-là, ce chapitre du théâtre aphasique, puisse continuer ses activités pour l'année à venir.
Merci beaucoup. Le dernier mot, donc, spectacle du théâtre aphasique, s'est présenté ce soir à 19h à la salle Georges Beaulieu du Cégep de Rimouski. Pour avoir plus d'informations sur les prochaines activités, on peut aller en ligne théâtreaphasique.org. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça a été un plaisir.
Composante majeure de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est un concept unique en Amérique du Nord. Un lieu de création, d'animation et de diffusion voué à la littérature et à l'écriture. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone Mme Dominique Bernard, responsable promotion, mise en marché et développement de public. Bonjour Mme Bernard.
Bonjour Maxime.
Tout d'abord, Mme Bernard, faites-nous une visite des trois étages de la Maison de la littérature de Québec.
Bon, ben donc nous allons entrer par le rez-de-chaussée. Il y a une entrée pour il y a une entrée qui facilite le déplacement sur la rue Saint-Joseph, 39 rue Saint-Joseph. À cet étage-là, c'est l'étage de la scène littéraire, c'est là qu'on présente les spectacles. C'est aussi l'étage du coin bistrot pour prendre un café, lire les journaux. Ensuite, on monte, l'étage bibliothèque est sur les deux autres étages et c'est dans un temple, donc c'est tout lumineux, c'est magnifique. Et c'est là qu'on a la bibliothèque et tous les autres services, des salons de lecture, des salles de réunion et l'exposition sur le patrimoine littéraire partout dans la maison, que ce soit des choses à écouter, à regarder, tout court à découvrir, à lire, des citations. Il y en a partout dans la maison.
Justement, cette exposition en toute liberté, elle se présente sous différents formats.
Oui, on peut se promener avec des audioguides, écouter des extraits, regarder des auteurs à la télévision raconter leur parcours, écouter des extraits de la Nuit de la poésie, des extraits de chansons qui ont marqué le patrimoine musical du Québec et vraiment lire les citations. Il y a 100 citations, il y a 100 auteurs partout dans la maison.
Il y a plusieurs aménagements qui rendent la Maison de la littérature de Québec accessible aux personnes en situation de handicap.
Et il semble-t-il que tout est conforme. Donc, oui, il y a un stationnement à l'extérieur. À l'intérieur, il y a un ascenseur. Dans la salle littéraire, qui est une petite salle de 65 places, il y a une possibilité d'installer les fauteuils. Idéalement, si on est prévenu, c'est plus facile. Puis, les accompagnateurs sont invités à accompagner les personnes qui sont à mobilité réduite. Les salles de bain sont conformes aussi. Je pense qu'on était assez accueillants.
Oui, bien, en tout cas, ça semblerait, et pour avoir fait l'expérience à quelques reprises, je peux le confirmer à nos auditeurs. La Maison de la littérature, bon, on parle d'un lieu d'échange avec des auteurs, il y a plusieurs spectacles avec la scène littéraire. C'est aussi une bibliothèque, on peut emprunter des livres.
On peut emprunter des livres, mais on peut aussi emprunter des films. On peut emprunter des disques, des CD de musique. Puis dans certaines autres bibliothèques, on peut aussi emprunter. On peut emprunter les musées. Hein, maintenant, il y a les emprunteurs musées, donc le Musée du Québec, Musée des Beaux-Arts, le Musée de la Civilisation et très prochainement le Musée du Monastère des Augustines. Donc, on passe à la bibliothèque et on emprunte une carte pour aller au musée. Ben, c'est bon pendant 7 jours. Wow, donc, on emprunte un musée. Dans d'autres bibliothèques, on peut emprunter aussi des œuvres d'art. À certaines bibliothèques, il y a même des instruments de musique. C'est-à-dire qu'on peut s'installer et prendre l'instrument de musique, le réserver, et avec des écouteurs, jouer du piano.
Donc, c'est vraiment même une plateforme vers la découverte de d'autres types de musées ou de lieux culturels. Et il y a plusieurs événements à venir à votre calendrier et qui font appel surtout au sens de l'ouïe.
Oui, on a une nouvelle série qu'on a commencée récemment, après cette année, en 2017, qui s'appelle « Du livre à la scène ». Et on a déjà reçu Fabien Cloutier avec ses régionalistes en mars. Même chose en mars, la vie littéraire avec Mathieu Arsenault. Et ce qui s'en vient, c'est deux auteurs qui sont sur scène et qui viennent raconter leurs livres accompagnés de musique. Donc, « La vie habitable » de Véronique Côté. Ce sera ici le 11 et 12 mai. Elle sera sur scène avec un musicien. Donc, c'est une lecture accompagnée de musique. Puis le 20 mai, ce sera Juliana Léveillé-Trudel.
Oui.
Oui, merci. Juliana Léveillé-Trudel qui viendra avec son beau Nirlit et deux chanteuses de gorge, deux accompagnatrices de chants de gorge. Donc, elles viennent nous raconter leurs livres. Avec, donc, c'est des lectures musicales. Ça, c'est pour Louis. On a la série Amuse-Bouche. Et ça, les 14 et 15 avril, ce sera Marianne Marceau avec un musicien qui vient de nous livrer des extraits. Cette fois-ci, c'est un peu sous le signe de l'humour. Et ça, c'est gratuit. Donc, le vendredi midi, on apporte le lunch. C'est où la scène littéraire. On écoute les extraits de Marianne Marceau et son musicien. Puis, le samedi, en fin de matinée, vers 11h, c'est dans l'espace de la bibliothèque. Et le samedi matin, on offre le café et les viennoiseries lors de la série Amuse-Bouche.
Et il y a aussi Lettre gourmande, votre soirée bénéfice qui a lieu, je crois, le 8 mai prochain.
Oui, notre soirée bénéfice, c'est cette année, on a de la grande visite. On a Anaïs Barbeau-Lavalette qui sera des nôtres avec Webster. Et c'est un cocktail dînatoire dans la tradition des cocktails philanthropiques. Donc ça, c'est au coût de 150 $ par personne, cocktail dînatoire à saveur littéraire. Et les gens qui viennent savent qu'ils viennent pour soutenir les projets de la Maison de la littérature. Ça nous fait une belle soirée qui correspond aux valeurs de la Maison de la littérature, qui ressemble à ce qu'on fait ici, mais qui sert vraiment comme levier financier.
Mm-hmm. D'ailleurs, je prends quelques secondes pour dire à nos auditeurs que le livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette, « La femme qui fuit », ainsi que « Nirlit » de Juliana Léveillé-Trudel, ce sont des livres audio qui sont disponibles à vue et voix ici. Et donc, cette Maison de la littérature, elle offre, c'est un espace vraiment de médiation culturelle. Vous travaillez activement à faire rencontrer le public avec les auteurs sous différents formats.
Oui, on a des grandes rencontres de l'Institut. Récemment, on a reçu Audur Ova, qui est une auteure islandaise qui nous avait donné Rose Candida. Puis on a reçu Monsieur Alberto Mengel, qui a fait Bibliothèque la nuit à Québec et qui a écrit des ouvrages tellement, tellement édifiants. Ça, c'est les grandes rencontres. C'est des rencontres qui sont gratuites et qui sont offertes par l'Institut canadien. Mais on a aussi des clubs de lecture. Par exemple, le 4 juin, c'est le club de lecture bébé, qui est animé par un des auteurs. Ici, il y a un atelier de bébé, la Chope à Bulles. Et 4 fois par année, le club de lecture est animé par un des auteurs de bébé de la Chope à Bulles. C'est gratuit, encore une fois, café viennoiserie. Sur le site Internet de la maison, on indique quelles sont les lectures qu'on suggère pour participer. On peut avoir lu un seul des 4 livres suggérés. Et cette fois-ci, le 4 juin, ce sera autour de romans et cinéma.
Est-ce qu'il y a quelque chose à venir pour la programmation estivale ou vous prenez plutôt relâche?
L'année passée, on avait présenté du cinéma 3 fois par semaine. Donc, cette année, comme on est tout le temps en activité, on n'est pas tout à fait prêt pour vous dire ce qu'on fera cet été. On prépare aussi le prochain Festival Québec en toutes lettres qui aura lieu à l'automne. Mais on souhaite avoir de la vie dans la maison à l'été aussi.
Merci beaucoup, Dominique Bernard, de nous avoir présenté ce lieu culturel à Québec qui trône vraiment dans le vieux Québec avec à l'intérieur la blancheur de l'église qui a été mise de l'avant, un espace de rencontre entre les citoyens, les écrivains et les créateurs en art littéraire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci, c'est un plaisir et à une prochaine.
J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon jazz. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai botché le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Oh shit. Et j'ai des remords d'en face, parce que aimer ça me fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on bouffe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça me prendrait plus de temps et encore plus de rire. Et peut-être bien qu'à 100 ans, je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin, ou bien au moins en attendant le refrain. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tous nos rêves qui s'écroulent. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qu'un artiste doit de dénoncer quand il va chercher son trophée. J'en ai plein mon jazz. Monsieur, pouvez-vous me dire, sans trop être furieux, si j'ai le droit de partir de votre cour d'économie qui me remplit le coco d'ennui? Car je suis sûr que l'offre et la demande pourraient attendre si on prenait le temps d'en discuter avec monsieur le PIB. Je suis sûr qu'il pourrait vous parler du fait que votre réalité est frette. La vie ne se résume pas qu'à l'argent, il y a l'amour et puis le temps. Ah, oh, il y a l'amour et puis le temps. Ah, 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 il y a l'amour et puis le temps. Ah, même si trop souvent. J'en ai plein mon jazz de l'hiver, de ta mère, des nids de poule et de tout mon peuple qui s'écroule. J'en ai plein mon jazz de la guerre, puis de toutes les autres affaires qui font que les humains de la terre ont tout plein de remords dans le face. J'en ai plein mon jazz.
C'était Émile Bilodeau avec la pièce « J'en ai plein mon casse » tirée de son plus récent album « Rite de passage » paru sur l'étiquette Grosse Boîte. Il était en spectacle hier à Sorel-Tracy et il visitera Châteauguay, Sherbrooke, Victoriaville et Montréal dès la semaine prochaine. À sortir, on vous propose souvent des spectacles, des expositions, des films à attraper au cinéma, mais la télévision est une partie importante de la culture populaire. C'est pourquoi, pour notre dernier segment aujourd'hui, on vous propose de rester à la maison. Je joins au téléphone Kevin Breton, animateur, à Ami Télé, qui a deux nouvelles émissions à nous présenter. Bonjour, Kevin.
Bonjour, Maxime.
Kevin, la gastronomie est à l'honneur ces jours-ci à Ami Télé.
Ben oui, donc de deux nouvelles émissions d'Ami Télé dont je voulais vous parler parce qu'effectivement, ça fait également partie de la culture. Et avant de sortir, aller au cinéma ou aller voir des spectacles, bien, on peut peut-être se faire un petit repas chez soi, question de ne pas sortir l'estomac vide. La nouvelle émission en question, c'est Pas de panique, on cuisine avec un co-animateur que tu dois connaître selon moi, Maxime, c'est Bob le Chef.
Bob le Chef, bien sûr, c'est ouais, quand même une figure importante à la télé ces dernières années.
Oui, tout à fait. Donc, une émission qui est destinée spécifiquement aux personnes avec une perte de vision. Donc, ils font des recettes simples, savoureuses, accessibles et abordables en donnant quelques trucs pour les apprentis de la cuisine qui souhaitent cuisiner. Donc, les recettes... moi, je l'ai reçu en fait, à Ça me regarde, dans une émission qui sera diffusée demain, donc le 15 avril, si vous voulez en apprendre plus. Mais parmi les recettes, donc, bouillie de bœuf... pâté chinois réinventé, poisson blanc, quiche au jambon, etc. C'est des émissions d'une demi-heure qui sont diffusées le mardi maintenant sur Ami Télé. Pas de panique, on cuisine, que ça s'appelle.
Et il y a une autre aussi, une autre émission gastronomique, cette fois-ci, Yves et Max sur la route.
Oui, tout à fait. Donc, eux, c'est vrai qu'ils sont sortis parce qu'ils ont quitté leur cuisine, en fait, pour aller faire des découvertes culinaires dans les trois coins de l'Amérique, si on peut dire. Donc, Yves et Max, c'est quoi? C'est une production de Pimiento, également diffusée sur Ami Télé, où on suit, en fait, les aventures de Yves, qui est une personne non-voyante, donc Yves Touga. Lui, dans la vie, il est massothérapeute et c'est un grand gourmand. Et il est lié d'une amitié avec Maxime, qui est propriétaire du Chien Fumant, un restaurant à Montréal. Et les deux sont liés donc d'une amitié commune, mais aussi d'un plaisir partagé pour la bouffe, puisque Yves va souvent manger chez Maxime. Et ensemble, ils sont partis donc au Mexique, au Maine et à Vancouver faire toutes sortes de dégustations. Les trois premières émissions se concentrent sur le Maine. Donc, ils vont notamment aller à la pêche au homard. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on vit les différentes régions de l'Amérique à travers la perspective d'une personne non-voyante. Puis après ça, ils se dirigent au Mexique. Et moi, j'ai également reçu Yves et Max à Ça me regarde. Et c'est vraiment des personnages absolument trippants. Ils ont beaucoup de plaisir ensemble. Ça paraît à l'écran. Ils vont faire toutes sortes de trucs vraiment extraordinaires, comme manger des insectes, de la pêche au saumon, de la pêche au mort, du mezcal, une espèce de plante au Mexique qu'Yves va lui-même découper avec une machette. C'est une production que j'ai trouvée extraordinaire qui est maintenant sur nos ondes.
Ben, merci beaucoup. Vraiment, la description donne envie de regarder et écouter Ami Télé. Merci Kevin Breton, animateur à Ami Télé. On regarde ces émissions qui sont diffusées depuis le 4 avril. Merci beaucoup.
Merci Maxime. Bonne journée.
Bonne journée. C'est tout pour notre émission aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre sur la page Facebook de Canal M pour d'autres suggestions de sorties culturelles que l'on publie au cours de la semaine. Pour écouter l'émission, c'est à l'adresse canalmvusezvoix.com. Je remercie mes invités d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je remercie aussi Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Yannick Roberge et François Lemoine au thème musical. C'était Maxime Despomerleau. Je nous souhaite une semaine riche en sorties culturelles. À très bientôt.